I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les couilles sur la table avec Virginie Despentes, quatrième partie. Dans cet épisode, il est question de justice, de prison, d'écologie et d'hétérosexualité. Qu'est-ce que ça a changé dans la vie de Virginie Despentes de devenir lesbienne ? Est-ce qu'elle regrette de ne pas avoir eu d'enfant ? Les jeunes générations vont-elles sauver le monde ? En quoi est-ce qu'on peut encore avoir de l'espoir ? C'est la dernière partie de ce grand entretien avec l'une des autrices les plus importantes de notre époque, et ça commence maintenant. Virginie Despentes, vous dites souvent que vous êtes devenue lesbienne à 35 ans. Est-ce que c'est un choix ? Comment ça peut être un choix ? Y a-t-il un mode d'emploi ? Comment est-ce qu'on fait ?
On ne peut pas décider de devenir lesbienne, mais on peut accueillir la possibilité avec enthousiasme. C'est-à-dire, moi, il n'y a pas un moment où je me dis « je vais devenir lesbienne ». Ça veut dire « je tombe amoureuse d'une fille pendant le tournage d'un documentaire qui s'appelle « Mutante ». Mais j'aurais pu aussi, à ce moment-là, me dire ça peut pas être une histoire sérieuse, parce que ça peut pas rentrer dans ma vie, parce que je suis hétérosexuelle pour toujours, parce que lesbienne, ça peut pas être mon identité. Je peux l'accueillir plus ou moins, et c'est là que je pense que ça change les choses, comment est-ce que l'entourage perçoit le fait d'être homosexuel ou hétérosexuel. C'est que si c'est pas un problème du tout de devenir lesbienne, effectivement, c'est pas un problème du tout, c'est même une super chance. Mais pour que ça soit vécu comme moi je l'ai vécu, il faut une société dans laquelle on ne va pas te faire chier avec ça, dans laquelle tu peux dire un jour, dans une interview, maintenant je suis avec une fille, je suis très heureuse, et où ça ne posera pas de problème. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, si ça m'arrive en 1970, qu'à 35 ans, j'ai une histoire avec une fille, évidemment, ça va être moins joyeux. Parce que le regard est tellement dur, le regard est tellement péjoratif, ça viendra avec beaucoup de douleur. Moi, dans mon cas, ça vient avec zéro douleur, mais donc ce qui m'arrive, je pense que c'est que je comprends immédiatement quand ça m'arrive de tomber amoureuse d'une fille, que c'est une super chance. Que pour moi, c'est la chance de ma vie, en vérité, et que je ne vais pas la laisser passer, alors que j'aurais pu le prendre différemment. Et après, la question que moi, je me pose, c'est pourquoi pas avant ? Et ça, c'est une question que je n'ai pas fait d'analyse entre-temps, et c'est une question qui vaut, ça vaut pourtant la peine de se la poser, parce que ouais, pourquoi pas plus tôt ? Et je pense que là, c'est parce que je... Il me semble que c'est une injonction sociale, que sinon il est... c'est évident que j'aurais dû être lesbienne tout de suite, ou plus tôt en tout cas. Ou les deux, ou moins bi. Parce qu'on ne peut pas dire que j'aurais profité quand même.
Bah oui, parce que vous disiez aussi que...
Ça ne m'a pas non plus, mais disons que ça a été... ce que j'ai décidé par contre, ouais, dès que je suis tombée amoureuse d'une fille, c'est d'en profiter à fond de l'histoire, mais aussi de l'opportunité de sortir de l'hétérosexualité. Et ça, c'est vrai que c'est parce que j'ai des... très entourée de lesbiennes et que je savais quelque chose sur la culture lesbienne déjà.
Parce que peut-être même que si vous n'aviez pas été dans cet entourage-là, je me dis peut-être qu'il y a plein de filles qui ne tombent pas amoureuses de filles parce que même ce qu'elles ressentent, elles ne peuvent même pas l'analyser comme de l'amour en fait. Elles ne peuvent même pas se rendre compte qu'elles sont amoureuses. Étant donné que l'hétérosexualité c'est la norme et que c'est comme ça et que...
Il me semble, notamment quand tu es adolescente, ouais, qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont une histoire d'amour que tu n'appelles pas comme ça. Plus tard, c'est encore autre chose. Parce que dans cette amitié féminine, tu vas trouver des choses très, très importantes. Mais quand tu es adolescente, il me semble évident ouais, qu'il y a des histoires qui sont des histoires d'amour et qu'à l'époque de laquelle je viens, on avait tendance à éviter de les appeler par leur nom. Parce que c'était... C'est même pas que ça venait avec une foule d'emmerdes de lesbiennes, c'est que ça n'existait pas, pareil, quand j'étais petite. J'ai rencontré des lesbiennes, mais je ne sais même pas si j'avais vraiment de mots pour définir ce qu'elles étaient, quoi. Par exemple, quand j'étais vraiment petite. Donc, ce n'était pas une option, en fait. Et après, ouais, je me dis pourquoi. Bah, 35 ans, j'ai attendu tard, quand même. Bon.
Parce que quand vous dites « je suis devenue lesbienne à 35 ans », je me dis, est-ce que la façon dont ça pourrait être mal interprété, c'est de se dire « ah bon, bah, si c'est un choix, c'est un peu dérangeant aussi parce que du coup je pense à tous les réacs d'en face qui expliquent que ah bah l'homosexualité c'est un choix, donc ça veut dire que si t'es gay tu peux choisir d'être hétéro, donc pourquoi tu fais pas l'effort d'être hétéro, etc.
Oui, mais quand quelqu'un est capable d'avoir cette rhétorique là, de toute façon tu peux pas dialoguer avec. Enfin, de toute façon, tu peux pas rentrer dans ça, tu peux rentrer dans un dialogue en lui demandant de te foutre la paix éventuellement, mais tu pourras pas aller plus loin, donc tu t'en fous de savoir s'il comprend ou pas ce que c'est. Parce que si quelqu'un est capable de te demander de faire l'effort de pas être lesbienne, déjà c'est foutu. Enfin, toi, dès que quelqu'un peut être dans l'idée que ça va être mieux pour toi d'être autre chose, c'est foutu. La seule discussion que tu peux avoir avec cette personne, c'est de te laisser tranquille, de te laisser l'espace pour vivre ta vie, lui, il va vivre la sienne, mais tu peux pas être dans un autre dialogue si quelqu'un... C'est tellement évident que pour une fille, c'est évidemment mieux.
Ce que vous dites dans une interview à Society, vous dites « Franchement, s'il n'y a pas d'opprobre social, à mon avis, dans 20 ans, toutes les meufs sont lesbiennes. »
Je le crois. Je le crois vraiment plus. Enfin, pas toutes, parce qu'il y aura toujours des Béatrice Dalle, des femmes qui aiment les hommes pour de vrai. Mais il y en a... Béatrice Dalle, j'en connais une, quoi.
C'est-à-dire quoi, aimer les hommes pour de vrai?
Elle les aime, c'est vrai. Elle les aime, mais de lui rendre bien, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a vraiment aimé les mecs les plus improbables et qui le lui ont rendu, qui a été vraiment heureuse, mais c'est super rare, en fait, d'être vraiment une grande amoureuse. C'est rare, des hommes, je veux dire. Donc, moi, il me semble que c'est inéluctable. Que s'il n'y a pas une condamnation sociale, effectivement, les femmes détourneront des hommes petit à petit, ça me paraît, mais...
Moi, j'entends beaucoup de discussions comme ça.
Je sais pas si c'est vrai, en vérité, j'aime bien le dire.
Mais l'exagération et le...
Et en même temps, l'exagération, c'est vrai que ça nous convient tellement pas, l'hétérosexualité.
Ça se pose de façon de plus en plus criante, de plus en plus pressante. Moi, je le vois dans les milieux que je fréquente, féministes et tout, c'est le truc de mais comment est-ce qu'on peut continuer à être hétérosexuel et être féministe, en fait? Ça commence à devenir pénible.
C'est compliqué à concilier, réellement, c'est compliqué à concilier. C'est déjà compliqué d'être féministe et travailler. Parce que t'es tout le temps en train de faire des concessions que t'as pas à faire. C'est compliqué d'être féministe et sortir de chez toi. Alors en plus, féministe et vivre avec un mec, ouais, c'est compliqué, c'est vrai. Après, il y a... Évidemment, j'exagère, parce qu'il y a des mecs qui sont... Il y a des couples particuliers, des couples, ça va bien. C'est rare. En général, ça nous convient absolument pas, cette histoire d'hétérosexualité. Mais je suis même pas sûr non plus que ça convienne très bien aux hommes. Qu'on a l'air de préférer être ensemble aussi, quand même. Parce que pareil, si tu lèves l'opprobre sur... s'il y a une opprobre aussi forte sur PD, c'est qu'il y a quand même un désir très très profond d'être PD, parce qu'évidemment, c'est vrai que c'est plus facile. Sexuellement, les mecs entre eux, déjà, ça a l'air quand même plus facile. Ils sont dans leur continent noir, dans leur truc entre eux, ils se comprennent, non, c'est bien. Mais je pense que si on libère, là, pour le coup, là, parce que quand même les fictions dans lesquelles on vit sont des formes de propagande super fortes, et si on les libère et qu'il y a beaucoup de personnages féminins qui entrent, je pense que réellement, ça va. Il y a quand même une génération qui va nous surprendre dans ces
choses. Qui va être moins dans l'hétérosexualité obligatoire.
Oui, et évidemment, il y aura des histoires avec plein de gens différents, parce que dans une vie, tu rencontres plein de gens différents, et des fois, c'est un mec. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est un mec, voilà. Mais normalement, je pense que c'est. Cette logique, elle tombera. Ouais. Parce que c'est très compliqué d'être une fille avec un mec.
On se demande comment est-ce que, même sortir de l'hétérosexualité, est-ce qu'il y a moyen d'être avec des mecs, de coucher avec des mecs, d'être en relation avec eux, amoureuse, etc., mais de ne pas être dans un rapport de force hétérosexuel, en fait. C'est la question de sortir de l'hétérosexualité politique, c'est-à-dire de ne pas assumer l'essentiel du travail domestique à la maison, de ne pas assumer l'essentiel du travail gratuit, quoi, de l'exploitation domestique, de l'élevage des enfants et de tout ça. Non. Et moi, je me demande si c'est possible de vivre ça autrement, de vivre d'autres types de relations.
Non, puis au-delà de ça, de pas être mal à l'aise si tu as beaucoup plus de pouvoir que ton mec, de ne pas être mal à l'aise si tu gagnes beaucoup plus d'argent que ton mec, de ne pas être mal à l'aise si tu attires beaucoup plus l'attention que toi. C'est qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles c'est de ne pas être mal à l'aise si tu as l'impression d'avoir plus de talent dans ce que tu fais que ton mec, ou plus de reconnaissance. C'est que ça pose beaucoup de problèmes de pas être mal à l'aise parce que toi tu vieillis et que ton mec vieillit aussi, mais que lui c'est pas grave, toi c'est rédhibitoire. Enfin, il y a quand même plein de choses qui se cumulent qui font que, parce que quand t'es dans une chambre à coucher, t'as la chambre à coucher, mais le monde entier quand même rentre dans ta chambre à coucher, notamment dans un rapport hétérosexuel. Et donc c'est compliqué d'être avec un mec effectivement sans voir que lui a un avantage de départ sur toi, toutes sortes d'avantages de départ sur toi, et donc c'est vachement d'énergie perdue à essayer de déjouer ce truc. Et je pense pour eux aussi, ça ne doit pas être condition de bonne composition. Ça doit pas être
moi, je suis persuadée que tout le monde y a intérêt, en fait, à déjouer ça. Et...
Ah, moi, je pense aussi. De toute façon, on a vraiment intérêt à changer les choses comme on les fait totalement.
Mais que les femmes, là, ont quand même un peu plus d'intérêt à le faire. C'est-à-dire que, encore une fois, la masculinité, ça va avec un certain nombre de privilèges. Donc, à part pour des raisons éthiques et peut-être pour mieux respirer, pour être plus heureux, etc. Il y a plein de types qui n'ont aucun intérêt à abandonner leurs privilèges.
À faire la vaisselle, ça n'intéresse personne, ça c'est clair. Faire la vaisselle tous les jours, ça n'intéresse personne. Faire les courses tous les jours, ça n'intéresse personne.
Gagner moins d'argent.
Intéresse personne. Aller chercher les enfants à la crèche, ça n'intéresse personne. Enfin, il y a un certain nombre d'activités féminines. Être tout le temps au régime n'intéresse personne. Enfin, il y a plein de trucs, effectivement, qui n'intéressent personne et qu'on scrutine quand même, quoi. Et ils n'ont pas intérêt du tout à changer ça, hein, c'est vrai. Ils ont intérêt à le changer, je pense, parce qu'ils ont... pour être dans une position parfois vulnérable et non humiliante, non ? Ils ont intérêt à le changer. Mais même ça, c'est plus vrai, parce qu'en fait, les mecs d'aujourd'hui, je crois qu'ils s'en foutent de faire comme s'ils assuraient.
Je me demande voilà, s'il est possible de réinventer l'amour, en fait, que ça sert à ça aussi, peut-être les pensées subversives, peut-être que le féminisme, ça sert à ça aussi, à réinventer d'autres types de relations amoureuses, en fait. Et amicales, et affectives, et sexuelles, et...
J'espère... Bah, de toute façon, ouais, il faut tout changer pour que ça... Non ? Il faut tout changer. Mais après, c'est compliqué pour me changer l'amour, parce qu'évidemment, dans l'amour, au-delà de la hétérosexuelle ou pas, par exemple, la fidélité, c'est vraiment un débat. Est-ce qu'on est en couple ouvert ? Est-ce qu'on est en... Mais c'est super compliqué de changer. C'est très compliqué de vouloir changer quelque chose tant qu'on n'a pas un nouveau modèle qui nous remplisse d'enthousiasme. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, c'est pas comme si on vivait déjà dans des couples à 8, qui sont donc plus des couples, mais dans des fonctionnements, et où ça fonctionne super bien, et où donc ce qu'on soit en train de se dire, c'est pas on est en train de faire la critique du vieux système, on est en train d'inventer un nouveau système. Et là, ce qui nous manque, il me semble, dans toutes nos... expériences de vie à gauche, dans la gauche radicale, c'est des expériences de vie réelles qui nous remplissent d'enthousiasme. Non, et par exemple, moi, je veux changer l'amour, mais dans ma pratique, en vérité, je suis encore dans des histoires de monogamie très classiques, et je sais que c'est pas le mieux. Et en même temps, je suis dans une incapacité totale à inventer en toute sincérité autre chose. Si j'invente autre chose... je vais manquer de sincérité et je vais pas dire là où je souffre ou là où je fais souffrir. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, c'est là-dessus, je trouve que moi, j'attends pas mal des gens plus jeunes. C'est trouver des formes réelles, le faire réellement, quoi, être en train de le vivre. Et là, effectivement, ça, si on change l'amour, on s'en fout que ce soit un amour entre un pénis et un vagin. Ça, on peut passer à autre chose très facilement, à tous les niveaux. Mais il faut d'abord craquer le truc et avoir l'idée de comment est-ce que tu, dans ta pratique, toi, quotidienne, qu'est-ce que tu fais qui est différent et que tu défends, quoi.
Et vous, qu'est-ce que ça a changé d'être lesbienne, alors ?
Ça a changé tout sur comment j'écris, ça, c'est sûr, parce que c'est devenu... En ce qui me concerne, ça me paraissait problématique d'être un écrivain publié, médiatisé et d'être hétéro. Ça, c'est clair, ça m'a posé problème presque tout de suite, alors que ça me pose pas du tout problème avec mes copines. Enfin, je sais que je ne suis pas la seule. C'est un problème, ça peut être un problème dans un couple. Par exemple, si tu gagnes 10 fois ce que gagne ton mec, c'est plus un problème que si tu gagnes 10 fois ce que gagne ta copine. Parce qu'il y a un présupposé, tu es en train de lui prendre de sa virilité, alors que je ne prends pas de rien à ma copine au moment où je gagne plus qu'elle. Et si, de la même façon que si demain, elle gagne plus que... C'est quand même des rapports d'équilibre de couple particuliers, mais en tant que meuf, elle ne m'enlève rien et je ne lui enlève rien. Elle m'enlève de féminité, on se fait pas de tort, alors qu'avec un mec, moi je l'ai vécu comme un truc vachement compliqué. J'ai eu l'impression d'observer autour de moi que j'étais pas la seule à qui ça posait un petit problème quand même. Et ça change aussi tout, il me semble, dans ma façon de vieillir, parce que j'ai aucune amertume, j'ai 50 ans, j'ai peur de mourir. C'est une vraie obsession sur je vais mourir bien. Enfin, c'est la prochaine étape et ça me pose problème. Mais par contre, de vieillir en tant que meuf, pas du tout. Et je crois que ça m'en poserait beaucoup plus si j'étais restée dans l'hétérosexualité. Parce que là, ça équivaut à rien de... j'ai 50 ans, mais ça veut rien dire de plus quand t'es lesbienne. Enfin, ça dit rien pareil. Ça te retire rien sur ta féminité ou sur ta séduction. C'est autre chose. Mais t'es vieille quand même. Ça, tu vas pas... Tu n'y échapperas pas.
Mais c'est quoi ? C'est moins pénible et c'est moins...
Bah, tu sais que tu gardes vachement de valeur sur le marché. En vérité, c'est vraiment aussi simple que ça. Et du coup, c'est pas une question. C'est pas un truc que tu te demandes. Parce que de la même façon que le fait d'être hyper exposé médiatiquement n'est pas un moins, le fait d'avoir 50 ans n'est pas un moins de rédhibitoire. On n'a pas le même regard les unes sur les autres. Il n'y a pas le même... moi-même, je ne vais pas regarder une meuf en me disant « Elle a 60 ans, elle ne peut pas me plaire. » Toi, parmi Anne Wax... une déclaration comme « je peux pas coucher avec une meuf de 50 ans ».
Parce que je ne couche jamais avec des femmes de plus de 25 ans. Je ne couche qu'avec des Asiatiques de moins de 25 ans.
Tu peux la trouver dans la bouche d'une femme lesbienne, c'est possible. Techniquement, c'est possible, mais c'est vraiment pas notre culture. Tu vois ce que je veux dire si tu,
est-ce pas... que la culture lesbienne, elle est moins rude avec le corps des femmes?
Les femmes, les unes avec les autres, oui, on est moins... Ah bah, c'est pas pareil. Oui, non, c'est pas pareil. Déjà, c'est pas du tout la même séduction. Une séduction d'une lesbienne, en tant que lesbienne, tu te sens pas que ta séduction repose du tout sur les mêmes choses. Du tout. Enfin, ça dépend des gens. Moi, je parle de moi, en fait, ici. Mais de la même façon, c'est que les filles que je vais trouver très séduisantes sont des filles qui n'auront pas de séduction traditionnelle sur le marché de l'hétérosexualité. Est-ce que ce que je vais aimer chez elles, c'est justement le fait qu'elles sont lesbiennes? Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est que ça joue sur autre chose. Et évidemment, je sais pas comment toi tu vois ça, mais je vais pas me dire Jessica Lange, je me sens pas séduisante parce qu'elle est vieille. J'ai pas ce regard de mec qui aurait peur d'arriver au restaurant avec une meuf grosse à son bras ou une vieille, parce qu'il va se dire que les autres mecs se disent qu'il sera avec une vieille ou avec une grosse. Moi, je suis lesbienne, je m'en fous. Enfin, tu vois, ça se déplace. Et je sais que je suis avec des lesbiennes qui s'en foutent aussi. Donc, tout se déplace. Et ouais, donc du coup, moi, j'ai eu l'impression vraiment d'un truc dont j'avais même pas conscience pendant que j'étais hétérosexuel. Et d'un coup, tu sais, quand ça se termine, que tu te dis, putain, ouais, c'est comme... Par exemple, si t'habites quelque part où il y a tout le temps du bruit, tu réalises qu'il y a du bruit une fois que tu déménages et que tu travailles dans le calme le matin et que tu te dis, putain, ça faisait 5 ans que j'avais pas... Et ça, maintenant, je comprends qu'il y a eu beaucoup de bruit là où j'habitais avant. Et là, c'est un peu pareil. C'est un jour, tu travailles et tu te dis, putain, je comprends que j'en ai chié dans l'hétérosexualité. Je savais même pas à quel point, jusqu'à ce que ça s'arrête, quoi.
Ok. Bon, ça donne envie. Vous pouvez m'envoyer bouler.
Ça fait peur quand même.
À un moment dans King Kong Theory, vous dites que vous avez gardé des enfants et que au moins vous vous ennuyez pas du tout en faisant ça, mais bon, ça suffisait pas pour vivre à Paris. Mais vous aimez bien les enfants et vous dites aussi à un moment que vous aviez failli en crever de pas en avoir. Et je me disais que vous en aviez jamais parlé.
Bah, en fait, ouais, je pensais. J'aime. À partir du moment où j'ai eu 23-24 ans, j'ai commencé à aimer les petits-enfants. Avant, j'en ai rien à foutre. Mais vers 23-24 ans, je suis sortie avec un mec qui avait un petit garçon que j'ai adoré. Ça a été beaucoup les enfants des autres, en fait, moi, mes rapports aux enfants. Et à partir de là, je commençais à me dire... Mais à l'époque, je me défonçais vraiment beaucoup. Ça allait pas avec la vie que j'avais du tout. Mais une fois que j'ai eu 28-30 ans, je me suis dit, ça, j'ai de l'argent. J'ai 30 ans, il va falloir que j'y pense. Et je pensais vraiment que j'aurais un enfant. Et à 35 ans, quand je me suis séparée du dernier mec avec qui j'ai eu une histoire, qui était Philippe Manœuvre, là, j'ai compris que j'aurais probablement pas d'enfant. C'était mathématique. Et là, ça a été un moment vraiment de... C'était deux choses qui se rencontraient. C'est le fait que pour la première fois, je réalisais que j'avais un âge... C'est la première fois que j'ai pris conscience de mon âge, en fait. La première fois, je me suis dit, le temps passe, et une fois que c'est passé, enfin, tout le monde le sait, mais en fait, quand ça t'arrive... Et du coup, ça a été vraiment un choc, ouais, quand j'ai compris que j'aurais pas d'enfant. Et après, j'ai rencontré Béatrice, et on voulait des enfants ensemble. Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, non. En fait, une fois que c'est possible, et que tout le monde est d'accord, et que... on est vachement mieux sans enfant. Parce que c'est vrai que l'enfant, tu le sais, c'était le début d'une histoire vraiment géniale. Et tu sais qu'un enfant, c'est la fin de ton histoire d'amour à deux, quoi. C'est le début d'autre chose, mais c'est la fin de ton... Et c'est vrai que le début d'histoire avec Béatrice a été tellement génial.
Donc je dis, c'était Béatrice Preciado.
Préciado à l'époque, quoi, qui est devenue Paul Preciado. Et je redis Béatrice parce que c'est vrai que c'était à l'époque, c'était Béatrice Preciado. Et du coup, ça a été vraiment conscient, ouais, de se dire, on est trop amoureuse. Pour avoir un enfant tout de suite, et après, une fois qu'on sera moins amoureuse, il sera trop tard, on sera trop vieille. Et c'est comme ça que c'est passé. Et aujourd'hui que j'ai 50 ans, je pense que ça a été, pour moi, qui je suis, absolument génial de ne pas avoir d'enfant, parce que je crois que j'étais vraiment pas assez solide émotionnellement pour avoir un enfant et que ça se passe bien. Et que aussi, j'ai vachement profité de mon temps sans enfant. C'est-à-dire que ces 15 dernières années ont été géniales et qu'elles n'auraient pas été les mêmes. Dans la parentalité, mais je sais pas comment ça aurait été parce que je l'ai pas vécu. Mais disons, quand je regarde autour de moi, tous les gens font des enfants pratiquement autour de moi, ils en ont tous fait. Ça donne quand t'es extérieur à ça, en tout cas, t'as pas envie d'être à leur place. Ça, c'est sûr. C'est trop dur parce que c'est trop. Si un système est aussi mal fait que le système dans lequel on est, c'est très compliqué d'être un parent heureux parce que qu'est-ce que tu vas apprendre à ton gamin pour lui dire quoi, pour être responsable de lui, comment, pour l'aimer, pour... Enfin,
Il y a aussi tout le système politique, en fait, qui fait que,
c'est ça, parce que
rien n'est fait pour que les gens élèvent bien leurs enfants, en fait.
C'est impossible de bien élever ton enfant, parce qu'il faudrait que tu ne peux pas le garder chez toi, mais si tu l'envoies à l'école, mais si tu lui interdis Internet, c'est pas bien, mais s'il va sur Internet, enfin, de toute façon, et en plus, et de toute façon, tu sais que dans 10 ans, l'air sera irrespirable, l'eau sera imbuvable, et ton gosse sera brûlé par un soleil. C'est horrible. Non, mais c'est vrai, il y a quelque chose de... Je pense que c'est impossible de faire des enfants qui vont bien dans un système qui va aussi mal. Et du coup, il y a quelque chose d'un petit peu triste. Et en plus, rien n'est fait pour que tu sois un parent heureux avec des enfants heureux. Absolument rien.
Mais je pense aussi à des trucs très pratiques, de système de garde,
Non, même quand
de
y arrive
temps
pas.
De travail. Enfin, c'est comme si le monde était fait pour... Comme si les gens n'avaient pas d'enfants, en fait.
Non, puis si tes enfants ont des problèmes, avec qui... Parce que je vois autour de moi beaucoup de gens dont les enfants... Enfin, beaucoup de gens, certaines personnes dont les... Et quand ton enfant a un problème, qu'est-ce que tu fais? En vérité, il y a plus de recours que si t'es un mec violent, ouais, mais il n'y en a pas non plus.
Vous pensez à quoi, par exemple?
Je pense à l'anorexie, je pense à la dépression, je pense quand t'as vraiment un enfant, voire un petit taillade. Qui va l'aider? Et comment est-ce que tu veux dire à un gamin qui souffre, souffre pas, tout va bien? Il voit bien que ça va pas. Il n'y a rien qui va. Il est pas con, il a 15 ans, il peut mourir, qu'est-ce que tu veux lui dire? Il a raison. Enfin, tu vois, il y a quelque chose comme ça, quoi. Tu peux pas. Et comment tu veux l'aider? Tu vas lui dire que quoi? Qu'est-ce qui est bien? Bolsonaro, Trump, Poutine, qu'est-ce qui va? Non, mais c'est vrai.
Et qu'est-ce que vous dites alors, vous, à ces gamins-là?
Rien. Tu vois, non, mais je peux pas. Et c'est pour ça, je pense que je suis contente de ne pas en avoir, parce que tu vois des gamins de 15 ans, je trouve que j'adore les enfants à 15 ans, je trouve que tu as une intelligence, c'est comme une flèche. C'est net, quoi. C'est pas, là, effectivement, t'es pas dans des trucs complexes ni rien. C'est comme, tu vas directement là où tu dois aller de la façon. Et souvent, ce qu'ils te disent, tu dis, ouais. Bien sûr, tu dis des conneries dans ces cas-là, des trucs pour essayer d'un peu lui remonter le moral, mais dans le fond, gamin, t'as raison, quoi. C'est une merde. T'es dans la merde et c'est une merde, quoi. C'est vrai.
Mais il y a vachement ça chez vous, entre beaucoup de lucidité, très pessimiste. Et en même temps, vous êtes là et vous bâtissez des mondes dans vos romans et vous dites que vous attendez beaucoup de la génération qui vient et tout.
Oui, c'est vrai.
Comment ça coexiste, ça?
C'est des contradictions, non? On a tous des territoires. C'est comme si on avait une Amérique latine et une Amérique du Nord. Il y a une Amérique latine en moins un peu vivante. Et puis il y a l'Amérique du Nord plus pragmatique, plus cynique. Ouais, il y a les deux. Mais, et aussi parce que tant que c'est pas complètement foutu, il reste peut-être quelque chose à faire. Je me dis ça et je me dis aussi justement tous ces gens autour de moi ont peut-être pas eu cette idée de faire des enfants totalement uniquement parce qu'on leur avait demandé et qu'il faut des gens pour payer la dette. Ils l'ont peut-être fait aussi parce qu'inconsciemment ils se rendaient bien compte qu'à un moment donné, parmi ces enfants, il y avait quand même avoir quelques-uns d'entre eux qui allaient avoir des nouvelles idées et que peut-être qu'ils sauveront le monde, va savoir. C'est possible, techniquement. Donc, pourquoi pas?
Qu'est-ce qui vous réjouit, là, dans ce qui existe dans le monde? On évoquait tout à l'heure, pendant une pause, par exemple, le féminisme latino-américain ou le féminisme espagnol.
Je ne sais pas si ça me réjouit, mais par exemple, tout ce qui s'est passé ces deux dernières années autour du féminisme, autour de MeToo, je n'ai pas une pensée fixe. C'est-à-dire, ça m'évoque énormément de réflexions. Mais je suis surprise de le vivre. J'ai l'impression de vivre un moment historique. Je ne suis pas sûre des conséquences et de ce qui se passera ensuite, mais je suis sûre que le moment à vivre, je ne sais pas si ça me réjouit, mais c'est vraiment intéressant et c'est vraiment inattendu. Donc ça, en tout cas, j'ai l'impression d'être vivante dans cette histoire. Et effectivement, le féminisme latino-américain, il m'intéresse énormément parce qu'il est hyper productif, parce qu'elles sont... On parlait pendant la pause des images de manifestations au Mexique il y a peu de temps où elles ont vraiment, pour d'excellentes raisons, descendu dans la rue pour taper sur tout le monde. C'était vraiment violent. C'était la première fois que je voyais des manifestations féministes violentes. Et ça te change le cerveau chaque fois que tu vois quelque chose que tu n'as jamais vu. Notamment dans tous les rapports aux femmes, à la ville et à la violence. Ça te change de voir des militantes féministes cagoulées qui viennent tout casser. Et ça m'intéresse vachement. Ça m'intéresse. Je ne sais pas si c'est une... Je ne sais pas ce qu'en sortira, mais je sais que le processus m'intéresse vachement. De la même façon, pendant la pause, on parlait de Maria Galindo, qui est une Colombienne qui vient d'un groupe qui s'appelle Mujeres Creando, et je trouve que leur façon, et leur discours, et leur façon de faire la politique... Non, c'est une, vraiment une politique.
C'est
féministe activiste. En fait, c'est une pute indigène qui a une espèce de don pour l'écriture, parce qu'elle écrit des trucs très drôles, mais elle écrit aussi des trucs, des essais très... très universitaire. Elle a aucun rapport avec l'université, mais très universitaire. Et pour les avoir traduits, je sais que ça c'est absolument cohérent et absolument. Je sais pas ce qu'elle a salué. Elle a parlé cette langue universitaire spontanément, parce qu'elle l'écrit vraiment bien. Et elle n'écrit pas que comme ça. Et elle écrit des textes qui me passionnent parce qu'elle écrit des textes très. Par exemple, elle défend évidemment le droit des putes à travailler, mais avec aussi une critique très, très touchante et très intelligente de qu'est-ce que c'est une prostituée, qui est quand même pas non plus le travail. C'est beaucoup plus facile d'être romancière, ça c'est clair. C'est beaucoup plus confortable et beaucoup plus bourgeois d'être romancière que prostituée de rue en Colombie. Et du coup, elle se permet vraiment une vraie réflexion sur qu'est-ce que c'est être une fille toute seule, au tapin, indigène. Et du coup, ça me passionne, moi, ce qu'elle fait, elle, par exemple. Parce que notamment, je les trouve plus. Elles sont extrêmement violentes les unes avec les autres aussi dans leurs altercations, mais je trouve qu'il y a peut-être moins de temps passé à s'opposer les unes avec les autres.
Qu'en France, par exemple ?
Il me semble, ouais. Peut-être que c'est une idée que je me fais parce qu'elles sont loin et que je suis ici, c'est possible.
Est-ce que là, quel regard vous avez sur ce qui se passe en France ?
Moi, ça ne m'intéresse pas tellement.
Ouais, vous avez parfois dit ça, que le féminisme français, vraiment, ça ne vous intéressait pas du tout
Pas du tout, mais pas tellement. Je trouve ça trop d'embrouille pour rien. Il me semble qu'on peut, par exemple, sur des points comme la prostitution, on pourrait ne pas être d'accord et pas être aussi violente. Sur la pornographie, c'est la même chose.
Le
voile. Non, on ne va pas parler de ça, parce que là, c'est pas que dans le féminisme qu'on a un problème. Mais il me semble que sur beaucoup de choses, c'est toujours pas moi. Ce qui me fascine avec le féminisme français, c'est quand même, il n'y a pas de patrimoine, il n'y a pas d'argent, il y a un poste de ministre. On va pas toute la voir, donc on s'en fout.
Elle est pas ministre en plus, elle est secrétaire d'État, quoi.
Je savais pas, toi, elle est même pas
elle
ministre.
Il y a même pas de ministère.
Il y a même pas de portefeuille. Donc pourquoi est-ce qu'on s'énerve à ce point ? Il y a rien à se prendre. Enfin, on pourrait être beaucoup plus. C'est bien de s'engueuler hein, des fois, mais je trouve qu'il y a un niveau d'agressivité qui a aucun sens. Et c'est comme si chacune essayait de d'être la première féministe, la meilleure des féministes, la plus forte des féministes. Et c'est un truc qui m'intéresse mais réellement pas.
Il y a un truc beaucoup là dans la pureté militante aussi d'être.
Et la pureté militante française, ouais, toujours la plus, là, être la première de la classe, ça m'intéresse pas en rien, mais ni non plus que fabrique les premiers de la classe, j'en ai rien à foutre quoi. Et donc du coup, le féminisme français, il y a quelque chose où j'ai l'impression que c'est peu de. Mais après, il faut savoir aussi, pareil, j'ai 50 ans, il y a des choses qui se font en France que je connais pas. De très jeunes, justement, des gens beaucoup plus jeunes que moi, il y a des choses qui se font dont je suis pas du tout. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe à la mutinerie, par exemple ? Un haut lieu de militantisme, je ne peux pas te dire ni du bien ni du mal, j'ai aucune idée de ce qui se passe là-bas, c'est des gens beaucoup trop jeunes par rapport à moi.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Est-ce que le prochain énorme dossier là, auquel on devrait s'attaquer, vous aviez dit ça aussi, c'était donc suite à MeToo, en fait on se rend compte qu'il y a énormément d'agresseurs, qu'il y a énormément de harceleurs, énormément de violeurs, et en fait on se dit mais le système judiciaire tel qu'il est fait, enfin il y a deux choses en fait qu'on peut se dire par rapport à ça. Vous avez dit dans Télérama, j'en ai assez du féminisme carcéral,
ouais.
C'est quoi cette habitude d'aller voir les flics à chaque fois qu'il nous arrive un truc, donc ça vous dérange? Et puis ensuite quand on voit le nombre d'hommes impliqués, le nombre de personnes que ça concerne, on se dit que là, notre système judiciaire, notre système policier et tout, il n'est pas du tout adapté, en fait, pour traiter tous les cas de violences sexuelles qu'il y a dans la société.
Il est adapté à aucun niveau, parce que si la seule sanction, c'est la prison, c'est pas une réponse adaptée. La prison fera jamais d'un mec un mec moins violent. Donc, déjà, on a un problème, parce que on va envoyer des mecs dans un système qui va les rendre pires. Donc, à ce moment-là, il faudrait quasiment mieux se dire on les abat tout de suite. Mais comme on l'a dit précédemment, c'est un problème d'abattre ces hommes, donc on doit faire autrement. Et ce qui me dérange, c'est vrai que j'ai un peu de mal à. Parce que MeToo, pour moi, c'est vraiment un truc qui a été. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, ça m'a vraiment. J'ai jamais assisté à un mouvement politique international en temps réel. On n'avait jamais vu ça. Quelque chose qui se propage de pays en pays, qui s'adapte à chaque pays, mais qui a vraiment une racine commune. et qui, sur une année, libère la parole à ce point-là, pour qu'on sente à quel point non, c'est pas ton histoire personnelle, non, c'est pas ton attitude, non, c'est pas... Ça, c'est l'histoire de toutes les meufs quand elles arrivent sur le marché de l'emploi, dans un bus. C'est l'histoire de toutes, c'est pas ton comportement. Ça m'a paru incroyable. Mais après, c'est vrai que si ça se traduit par... on va chez les keufs dès qu'il y a un truc qui va pas.
Pour être mal reçu.
Si t'es bien reçu, c'est qu'aller chez la police pour... Il y a quelque chose de problématique, tu peux pas être tout le temps chez la police. Enfin, tu peux... L'histoire, c'est que j'ai pas d'alternative meilleure. Parce que fermer sa gueule n'est pas non plus une alternative. Mais tu peux pas aller chez... Déjà parce que la police, c'est papa. Il y a pas... Tu peux pas... C'est masculin. Il nous faudra encore 20-30 ans avant de sortir de cette analogie. C'est vraiment l'appareil policier... C'est la représentation d'un pouvoir masculin. Et donc, tu vas chez papa pour dire à papa que ça n'a pas été... Et c'est bien, là, je le dis d'une façon super péjorative, c'est bien, mais c'est pas bien. Tu ne peux pas passer ta vie chez la police. Et en plus, une fois que tu te retrouves devant les tribunaux, j'ai l'impression qu'il y a énormément de cas de viol. Ce n'est pas l'endroit où doivent être discutés.
De toute façon, déjà, il y a énormément de plaintes pour viol qui sont classées sans suite. Pas que ça. Donc je précise en souvent parce qu'on a l'impression que classer sans suite ça veut dire que rien n'a eu lieu, mais pas du tout. C'est juste que le cas qui est décrit, l'enquête est difficile à faire, ça correspond pas au cas typique du viol, ça correspond pas à l'image qu'on se fait du vrai viol. Enfin bref, on en a beaucoup discuté dans l'émission. Donc en fait, on se dit, mais peut-être que tout l'appareil judiciaire n'est pas fait en fait pour traiter des violences sexuelles, on peut pas. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on invente?
Il faudrait quasiment des. Inventer une cour alternative uniquement dédiée. Mais on a parlé juste avant l'émission de la première chose aussi qu'on doit faire si on veut vraiment faire rentrer ces affaires-là dans une justice, c'est premièrement, il faut élargir le vocabulaire. On ne peut pas avoir un seul mot pour tous les viols. On ne peut pas qualifier de la même façon le viol au Congo de guerre avec le viol du mec avec qui t'es sorti, mais qui est lourd, et qui, parce que c'est pas exactement le même viol, c'est pas exactement les mêmes conditions, c'est pas exactement les mêmes conséquences pour l'individu, il peut pas être appréhendé exactement de la même façon, et c'est pas les mêmes causes, exactement. Donc il faut des mots différents pour tous les viols. Et ça, c'est le premier truc qu'on... Et bien après, il faut aussi des... effectivement, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Comment est-ce qu'on rend la justice dans ces cas-là? Je pense que ça ne peut pas être exactement la même justice que celle qui va légiférer de... j'avais signé un contrat avec mon producteur, mais il n'a pas respecté telle clause. Alors là, je vais au tribunal, c'est normal. Mais sur un problème d'harcèlement ou de viol, il me semble que les tribunaux ne sont pas assez fins et n'ont pas les outils pour statuer. Alors après, il faudrait vraiment en parler avec les victimes, elles savent mieux que moi, mais j'ai l'impression que pour les victimes, je ne sais pas si c'est très réparateur. Ce procès, on nous le vend comme quelque chose qui va... Quand je dis j'en ai pas parlé avec les victimes, c'est pas vrai, j'en ai déjà parlé. J'ai pas l'impression que cette reconstruction se fasse si bien que ça, même une fois que t'as envoyé ton agresseur en tôle, ce qui est vraiment pas sûr, parce que probablement tu feras la démarche pour rien. Démerde-toi avec ça après. Je suis pas convaincu que le fait de parler dans cet endroit-là de ce qui t'est arrivé est quelque chose de bon pour toi en tant que victime à chaque fois. Peut-être des fois, mais systématiquement non, parce que c'est pas fait pour ça. Et enfin, je suis absolument convaincue que qu'est-ce que tu vas envoyer un mec en prison et 2 ans après, il sortira, il sera 10 fois pire. La prison, c'est une machine à emmerde, c'est une fabrique à emmerde. Donc à tous les niveaux, ouais, il faudrait qu'on réussisse à inventer une autre instance, non, une autre institution qui soit vraiment spécialisée dans des problèmes de harcèlement sexuel ou de violence sexuelle ou de violence de genre. Quels que soient les problèmes qui arriveront plus tard, mais qui soit vraiment une institution apte à discuter de ça. Et qui passerait pas forcément, je crois, par la police. Je crois que cette habitude d'aller chez les keufs tout le temps, elle est mauvaise. Point. Ils sont pas nos amis. Jamais. Enfin, je veux dire, t'es content de les trouver si on veut te tuer, oui, évidemment, mais quand même, l'institution police, ça peut pas être l'ami des féministes, c'est pas vrai. Je crois pas, mais en tout cas, spontanément, peut-être que ça, c'est mon âge qui joue, mais moi, je me dis, l'institution police et l'institution justice peut pas être nos amis des féministes. C'est fondamentalement faux.
Merci Virginie Despentes. Merci beaucoup.
Merci.
C'était la dernière partie de cet entretien avec Virginie Despentes. Merci de l'avoir écoutée.
Quentin Bresson, tout en enregistrant ses épisodes, a pris des notes. Quentin est ingénieur du son et réalisateur, mais c'est aussi le premier auditeur de l'émission depuis quasiment le tout début, et je le remercie pour son extraordinaire attention. Camille Regache reste chef d'édition, ça veut dire qu'elle trouve les titres et les images qui accompagnent ses épisodes et s'occupe de leur mise en ligne. Mais elle produit aussi maintenant un podcast génial sur l'hétéronormativité de la société. Ça s'appelle Camille et ça envoie du lourd, alors mon conseil c'est de vous abonner et d'écouter. Nadia Chappelle était en stage avec moi pendant 6 mois. Je la remercie pour son aide et pour son travail. Enfin, merci infini à Virginie Despentes d'avoir accepté cet entretien. Merci pour sa patience et sa radicalité. Si cette conversation vous a plu, vous a ému, a suscité chez vous de nouvelles interrogations, alors parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi m'écrire directement. L'adresse, ça reste lescouillessurlatable@binge.audio. J'ai pris un peu de retard dans les réponses au courrier, mais promis, je lis chacune de vos lettres avec attention. Dans les prochains épisodes des Couilles sur la table, vous retrouverez je ne sais pas encore qui, car je suis pour l'instant en vacances en Italie, vacances dont je vais revenir en pleine forme avec plein de nouveaux sujets. Le 30 octobre, vous recevrez chez vous votre exemplaire du livre Les Couilles sur la table, si vous l'avez déjà commandé. Sinon, il sera disponible chez vos libraires. Chers auditeurices, merci pour tout, merci pour votre écoute et à bientôt.